week-end. Extra.
La chronique américaine.
We will make America great again.
Avec Valérie Beaudoin.
Madame Beaudoin, bonjour.
Bonjour, Mathieu.
Je rappelle que vous êtes chercheur associé à l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand. Et on parle aujourd'hui, c'est Robert Mueller et son fameux rapport. Ça fait des semaines, voire des mois de spéculation. Est-ce qu'il va finalement être remis cette semaine?
Je dois dire qu'il y a eu un énervement cette semaine lorsque j'ai vu les alertes des différents médias qui disaient il va y avoir le dépôt du rapport cette semaine, en parlant de la semaine qui s'en vient. Je me suis dit, mon Dieu, après plusieurs mois, après des spéculations, est-ce qu'on va finalement avoir ce rapport-là? Mais j'avais quand même une crainte parce que ça arrive, on dirait, un peu comme un cheveu sur la soupe, parce que William Barr, qui est le nouveau, c'est lui qui va être le nouveau l'équivalent du ministre de la Justice aux États-Unis, vient d'être nommé. Et tout de suite après, on impose le dépôt du rapport. Alors, ce que je me suis dit, est-ce qu'il y a eu pression pour avoir ce dépôt-là? Mais finalement, ce qu'on apprend des différentes agences de presse, à la fin de la semaine, on a appris que non, ça n'aurait pas lieu cette semaine. Alors, le suspense se poursuit. Quand est-ce qu'on aura ce fameux rapport de Robert Mueller? Mais pour vous dire, là, dans d'autres enquêtes, ça a pris beaucoup plus de temps que ça. Je sais que ça a l'air long parce que Trump en parle à tous les jours, on y pense à ça, mais il y a encore du temps là, pour faire son travail.
Le président se plaît à dire que si c'est si long, c'est parce qu'il n'y a rien. Je dirais ceci, moi, c'est que si c'est long, ça ne veut pas dire qu'il est absous de parce que c'est du temps et du temps et du temps.
Oui.
Ça peut être très long, ce genre d'enquête-là, mais ça ne l'incrimine pas d'autant plus non plus.
Non, c'est ça.
Pour l'instant, c'est pure spéculation.
Il y en a eu des développements, et Michael Cohen, Paul Manafort, des arrestations de Russes. Oui. Et je veux dire, il y en a eu des choses qui ont été faites quand même, même si ça ne touche pas directement le président. Et ça ne veut pas dire que ça va le toucher directement non plus. Il ne faut pas l'oublier, ça.
Parlons des démocrates qui vont tenter cette semaine de bloquer les mesures d'urgence pour la construction du mur.
Oui. Bon, alors, est-ce que c'est une surprise? Non. On le sait, ça ne fait pas plaisir. Là, je vous rappelle les mesures d'urgence. On a débloqué des fonds pour construire ce fameux mur à la frontière. Et sous tous les fronts, c'est le cas de le dire, on s'est dit non, on n'est pas d'accord avec ça. Il va au-delà de son droit à la Constitution. Et ce qui va se passer, c'est que les démocrates devraient présenter mardi en Chambre un projet pour bloquer la résolution en disant qu'il n'a pas le droit de le faire Trump. Ça devrait passer parce que je vous rappelle qu'à la Chambre des représentants, les démocrates sont majoritaires. Mais Trump a une carte dans sa manche. Il a son droit de veto.
Okay.
Et ça, il ne l'a pas encore utilisé. Les présidents américains l'ont tous fait. Il a le droit de le faire. Et vous allez le voir dans ce que je vais vous faire entendre. C'est assez affirmatif que c'est la prochaine suite des choses pour lui.
Will you definitively veto that resolution that was introduced today that would block your national emergency if it passes?
On the wall?
Yes.
Will I veto it? 100%. 100%. And I don't think it survives a veto. We have too many smart people that want border security.
Donc, il demande, la journaliste demande, est-ce que s'il y a une résolution pour bloquer votre déclaration d'urgence nationale, est-ce que vous allez utiliser votre droit de veto? Il dit à 100%, oui, je vais le faire. Et après ça, ça pourra pas passer parce que, Mathieu, il y a une façon, par la suite, le président, il a son veto. Mais il n'y a pas un pouvoir absolu. Si les deux tiers des deux chambres, alors le Sénat et la Chambre des représentants décident, ils peuvent changer ce veto-là.
Ouais, mais les contrôles peuvent l'annuler. Le Sénat,
alors c'est voilà, c'est pour ça qu'il se sent aussi confiant de le faire. Donc, je vous rappelle aussi que c'est devant les tribunaux. Ça va être devant les tribunaux. Là, il y a des États américains qui ont poursuivi aussi le président pour éviter la construction du mur à la frontière du Sud.
L'ambassadrice des États-Unis au Canada devrait remplacer Nikki Haley à l'ONU. Il y a quelques dossiers sur le rond là, pour les États-Unis
sur
la scène internationale.
Ah oui, vraiment, elle va avoir tout un travail. Et Nikki Haley, qui avait fait un travail exemplaire concernant les démocrates et les républicains, disaient qu'elle avait fait un bon travail pour représenter les États-Unis. Et on avait de la difficulté à trouver sa remplaçante. Heather Nauert, la semaine dernière, qui avait dit, finalement, ça m'intéresse pas, elle qui est une ancienne journaliste de Fox News. Et là, ce serait Kelly Craft. Et si le nom vous dit quelque chose, c'était l'ambassadrice des États-Unis ici, au Canada. Elle était bien respectée par le président. C'est quelqu'un qui suit un peu la ligne de parti. Et c'est elle qui aura les dossiers. Bon, les dossiers du Venezuela, on le sait, là.
Ouais.
On a Mike Pompeo qui a dit que les États-Unis passeraient aux actes s'il n'y a pas de changement au niveau démocratique au Venezuela. Alors ça va être un des dossiers très chauds. Il va y avoir les dossiers de la Corée du Nord, l'Afghanistan, le retrait des troupes. Et pour les changements climatiques, s'il y a des gens qui espèrent voir un changement, ça se passera pas parce qu'elle dit qu'elle croit les deux côtés de la science, que les gens qui ne croient pas, qui sont climato-sceptiques, ont aussi raison de l'être. Et son mari est un producteur de charbon très important aux États-Unis, milliardaire. Alors voilà, ça c'est un peu le portrait pour cette femme-là qui devrait être nommée assez facilement. Là, ça doit être confirmé par le Sénat.
Trump et Kim Jong-un doivent se rencontrer plus tard cette semaine.
Oui, on dirait qu'on avait oublié un peu ce sommet-là.
Oui,
on n'en parlait plus.
On en parlait moins.
Comparé au premier sommet qui avait eu lieu à Singapour, où là, ben, c'est certain que c'était la première fois qu'on se disait qu'un président comme ça allait se rendre en Asie pour rencontrer Kim Jong-un, un leader nord-coréen. Il y avait toute cette histoire de... Bon, c'est la première fois qu'on vit ça. Mais là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on en parle moins et on évite de s'en vanter parce qu'on a peur qu'il n'y ait pas de concessions qui soient vraiment faites du côté nord-coréen? Alors, ils vont se rencontrer au Vietnam cette semaine, 27 et 28 février. On n'a pas beaucoup de détails. On ne sait pas comment ça va se passer la rencontre. On sait qu'il y aura une rencontre entre les deux, très certainement.
On sait que le train est parti là,
oui.
Ce matin. Là,
c'est alors, il a traversé la Chine. Il s'en va à Hanoï pour préparer sa rencontre. Est-ce qu'il y aura une entente sur la dénucléarisation? Oui ou non? Parce que la dernière fois, c'était vraiment une entente un peu de principe. C'était très symbolique. Mais est-ce qu'il y a des choses qui vont être faites dans le concret? Et est-ce qu'encore une fois, les États-Unis devront faire des concessions pour espérer avoir un deal, comme dirait le président Trump, avec Kim Jong-un? Ça va vraiment être à voir.
Il nous reste littéralement 30 secondes. La sénatrice démocrate qui n'a pas bien paru avec les enfants. Là.
Oui, alors on n'aura pas le temps de regarder la vidéo, mais Diane Feinstein qui s'obstine avec des petits-enfants du primaire qui lui disent que les changements climatiques, c'est important. Elle leur dit « Je suis là depuis plus longtemps que vous, j'ai été élue, je sais faire mon travail. » Alors voilà, c'est à voir.
Ça me fait penser à M. Couillard quand il avait rencontré les enfants puis il avait dit « Ah oui, t'as un nom, tu t'appelles Émile? J'ai eu un oncle qui s'appelle Émile aussi. Il est mort très jeune. »
La délicatesse.
Politicien et enfant, là, ça va pas toujours bien
pas
ensemble.
Pas toujours winner.
Merci. 8h56.